Fréquence protestante. La valeur de l'homme. Emmanuel Taïeb.
Chronique de la guerre en Ukraine. Depuis l'après-guerre, l'Europe vit dans l'illusion de la paix ou dans la croyance que la guerre ne la concerne plus. Le conflit en Yougoslavie en 1994 aurait pourtant dû fonctionner comme une alerte, car le réveil des nationalismes et l'émergence de nouveaux acteurs sur la scène mondiale ont réactivé la violence militaire dans divers points du globe. Les décompositions et recompositions nationales de l'après-guerre froide n'en finissent pas de produire des effets délétères. Les frontières se font et défont encore, et à l'est de l'Europe, très concrètement, la Russie gère et menace ses marches dans une logique quasi impériale, que l'on songe à la Tchétchénie, à la Géorgie, aujourd'hui à l'Ukraine. Depuis 2014, l'Ukraine connaît une situation politique et territoriale complexe et surtout un conflit armé dans le Donbass contre une Russie dont les troupes d'invasion ne disent pas leur nom. Fin 2013, le pays est traversé par une crise politique suite à la décision du président Viktor Yanukovych de suspendre le processus d'association à l'Europe sous la pression de Moscou. Des manifestants investissent alors la place Maïdan, la place de l'indépendance en ukrainien, Maïdan où des affrontements avec la police font de nombreux morts. Yanukovych fuit le pays en février 2014, mais dans la foulée, des soldats russes entrent en Crimée et cette région demande son rattachement à la Russie lors d'un référendum non reconnu par les autorités de Kiev, la capitale. La Crimée redevient un sujet fédéral de la Russie, comme elle avait été jadis partie intégrante de l'URSS. D'autres territoires ukrainiens font aussi sécession et dans la région du Donbass, des séparatistes sont soutenus militairement par la Russie, provoquant une guerre qui a fait 9000 morts à ce jour et 1,5 million de déplacés en Ukraine. Il y a bien une nouvelle guerre à la frontière de l'Europe qui ressemble à ces foyers de tension qu'alimentaient les deux grandes puissances lors de la guerre froide. La crise politique et la guerre du Donbass laissent une Ukraine exsangue et méconnaissable. Des individus que rien ne prédisposait à l'action politique ou au combat ont été du jour au lendemain confrontés à la violence, à la souffrance et à la mort. Des fratries ont été profondément divisées par des engagements politiques contraires et nombre de destins ont été changés à jamais. La chronique, la grande et la petite chronique de la guerre en Ukraine et de ses victimes a été tenue par Yulia Choukan qui était sur place lors des événements. Bonjour Yulia Choukan.
Bonjour.
Yulia Choukan, vous êtes maître de conférences en études slaves à l'Université de Nanterre, spécialiste de sciences politiques, spécialiste de l'Ukraine et de la Biélorussie. Vos carnets de terrain, saisissants, je le dis pour les auditeurs, en Ukraine, viennent d'être publiés aux éditions de l'Aube sous le titre « Génération Maïdan, vivre la crise ukrainienne ». Alors, Yulia Choukan, pour qu'on restitue un peu votre ouvrage, vous étiez en Ukraine, vous avez fait différents séjours au moment des événements et vous, voilà, au moment des événements historiques et vous en avez tenu la chronique, c'est ça l'idée ?
Et effectivement, j'ai dès que la mobilisation politique a commencé en Ukraine, donc fin novembre, je me suis rendue sur place. L'atmosphère de Maïdan m'a entraînée aussi. En fait, Maïdan a eu ces mêmes effets d'attraction sur moi que sur mes personnages. Et pour un chercheur, c'est une unique occasion effectivement de suivre au plus près la mobilisation, d'en saisir les ressorts et les pratiques. Et donc, je suis retournée régulièrement sur Maïdan en abandonnant un tout petit peu ma charge d'enseignement et mes étudiants. Donc, c'était parfois des courts séjours, des séjours de 5 jours, d'une semaine, jusqu'à 2 semaines sur place, à des intervalles réguliers. Je suis allée en décembre, donc pour saisir cette ambiance joyeuse sur la place encore, place protestataire. Ensuite, au mois de février, après les premières violences meurtrières et les premières victimes de cette mobilisation. Et ensuite, je suis retournée un tout petit peu avant le drame qui s'est produit, donc dans les journées du 18 et 20 février
2014.
Et je suis restée pendant 2 semaines donc, pour suivre effectivement le changement de régime et donc la manière dont le nouveau pouvoir s'est mis en place, période de latence avec la disparition, donc la fuite du chef de l'État et la mise en place du nouveau pouvoir. Et j'ai continué à retourner puisque j'ai noué des contacts avec beaucoup de protestataires, des gens très ordinaires effectivement. C'est cette question-là en fait de la mobilisation de personnes ordinaires et de comment l'ordinaire bascule à un moment, au moment de cette crise. Donc j'ai continué à retourner en Ukraine, à revoir les personnages que j'avais rencontrés sur Maïdan. Et à suivre en fait l'évolution des événements, puisqu'on était dans une phase un vrai tourbillon d'événements, puisqu'il y a une succession extrêmement rapide, vous l'avez énoncé dans votre présentation, avec l'annexion de la Crimée, ensuite l'embrasement à l'est de l'Ukraine. Et je suis allée, avant le début des hostilités, mon dernier séjour à Donetsk, qui était donc dans le Donbass, remonte au mois de mai 2014, au moment où il y a eu une consultation, semblant de consultation populaire qui était organisée sur place. Et j'ai continué à y retourner, parce que je me suis dit, qu'est-ce que moi, comme chercheur, je peux apporter, qu'est-ce que je peux saisir dans cette situation. Je ne peux pas aller dans les zones de conflit, donc comment je peux voir les transformations de la société et les suivre un peu à distance, un peu à l'arrière des lignes de front. Et à cet égard, j'ai eu de nombreuses occasions d'aller à la rencontre, effectivement, notamment suivre ce mouvement de bénévolat qui s'est mis en place à l'arrière, et d'aller à la rencontre des bénévoles, encore une fois, des personnes très ordinaires qui, dans cette situation de crise, se sont mobilisées, engagées, et dont l'engagement se poursuit, puisque mon terrain d'observation à l'est de l'Ukraine, à Kharkiv, dans l'hôpital militaire, j'y retourne régulièrement. Je travaille avec ces femmes bénévoles, donc pour suivre au quotidien, et j'en ai fait aussi un objet de recherche, et je me suis liée d'amitié également avec ces personnes.
Donc l'idée, effectivement, c'est de voir ce que la grande histoire, et puis un moment révolutionnaire ou quasi-révolutionnaire, la manière dont ça affecte des vies ordinaires, des vies peut-être un peu moins ordinaires. Il y a dans vos acteurs sociaux des gens qui sont députés ou magistrats, mais il y a effectivement cette idée de voir comment ça affecte, et notamment comment ça politise. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une politisation à grande vitesse d'un certain nombre d'acteurs sociaux que rien ne prédisposait à se mobiliser et à aller sur la place Maïdan et à prendre les armes?
Je pense que juste une toute petite précision par rapport au choix d'acteurs, c'est lié aussi à ma trajectoire de recherche. Il se trouve qu'avant cette mobilisation, je travaillais sur les parlementaires, donc les pratiques parlementaires, et les députés que j'avais suivis au long cours, avec lesquels je suis allée dans leur circonscription pour suivre leurs pratiques, m'ont aussi aidé à rentrer dans des espaces un peu plus fermés dans cette mobilisation. Donc, ce qui explique notamment cette rencontre, cette histoire d'une élue de l'opposition, la manière dont sa vie de député aussi bascule à ce moment-là. Et ensuite, effectivement, Maïdan a changé pour moi de perspective de recherche, m'étant toujours intéressée plutôt aux dominants, je me suis intéressée effectivement à cette petite personne, parce que c'est ça ce qui m'a le plus frappée, c'est cette mobilisation à grande échelle qui implique des hommes, des femmes, des personnes âgées ou des jeunes, et des personnes surtout qui étaient très étrangères à la politique jusque-là. Peut-être pour certains, ils se sont mobilisés, ils ont participé à une autre mobilisation en 2004, la Révolution Orange de 2004. Ouais. Mais pour beaucoup, même s'ils avaient participé à cette mobilisation, par la suite, ils se sont désintéressés de la politique et donc pratiquaient de manière très occasionnelle leur citoyenneté lors du vote, et encore, même pas tous. Donc c'est plutôt eux, leur représentation, leurs sentiments sur place, leurs pratiques, leurs implications qui m'ont intéressée sur Maïdan. Et effectivement, j'ai suivi ces effets de politisation sur certaines personnes parce que l'agencement lui-même de la place que je décris dans le livre politise et donne ce sentiment d'être révolutionnaire soi-même, dans la revendication et dans l'opposition frontale au régime dénoncé comme corrompu et en plus répressif, puisqu'il y a eu effectivement une première répression donc des protestataires par le régime. Ensuite, il y a bien évidemment la scène, il y a une grande scène au milieu de cette place, et je décris aussi son positionnement, j'ai ajouté un petit plan dans le livre pour mieux situer mes lecteurs. Elle politise également, puisque c'est de la scène que des hommes politiques, des musiciens, des journalistes, des leaders d'opinion s'adressent aux protestataires, et notamment il y a tous les rituels des rassemblements du soir, ou encore un grand rassemblement dimanche à midi. Bien sûr, il y a du contenu, il y a du sens unitaire un peu qui est assigné au mouvement par tous ces intervenants. Et ensuite, ce qui m'a le plus intéressée, c'est cette politisation plutôt dans les micro-groupes. Puisqu'effectivement, il y a des cadres, une manière de cadrer la mobilisation par les leaders, mais le sang circulait aussi dans les micro-groupes que je décris. Et notamment, il y a ce personnage d'ouvrier en bâtiment, dont la disponibilité au moment de la mobilisation le pousse à s'engager, son sentiment d'injustice aussi par rapport à ce qu'il avait vécu, expérimenté et connaît du pays. Et je décris en fait ce parcours de politisation, puisqu'il intègre un groupe de militants qui s'occupe de la logistique de la place et organise un certain nombre de mobilisations en dehors du site même protestataire. Et donc, c'est à leur contact, en assistant à leurs discussions aussi, en discutant, en s'engageant avec eux, qu'il se sent à un moment beaucoup plus Il se sent citoyen, tout simplement, et que son mot à lui aussi compte et qu'il peut agir. Donc il y a une sorte de, en anglais on dit empowerment, enfin, il se sent capable d'agir aussi, en fait, et il agit effectivement à ce titre-là. Donc on voit ces mécanismes de politisation que j'ai saisis même dans les discussions. Les gens pouvaient tenir des discours sur la réforme constitutionnelle qu'on revendiquait à l'époque, alors que voilà, a priori, c'est pas quelque chose qui intéresse en premier les protestataires.
Extrêmement politisé. Vous dites à plusieurs reprises dans votre ouvrage que cette participation à l'action collective, elle fonctionne comme alors une drogue, une addiction, et en même temps, au fond, quelque chose d'une extrême intensité. C'est-à-dire qu'on se sent pleinement citoyen, vous l'avez dit, mais on sent une force individuelle qui passe par cette mobilisation collective.
Mais je pense aussi que c'est cette chaleur humaine, cette solidarité, le don de soi qui est impliqué en fait. Quand je parle de l'effet de drogue, c'est plutôt cette drogue, enfin ces effets transitent par ces sentiments-là, par ce sentiment du proche et de la mobilisation aux côtés des proches aussi, puisqu'on se sentait très rapidement proche des personnes très ordinaires mobilisées. Moi-même, je me suis sentie proche et je pense que j'ai senti les effets de cette drogue, puisqu'on avait envie de retourner sur Maïdan. De part effectivement toute cette solidarité qui s'est mise en place et les différentes pratiques des protestataires. Donc on pouvait venir sur Maïdan, on pouvait passer toute la journée sur Maïdan, on était nourris, on pouvait trouver un endroit pour se réchauffer, pour se loger. Et donc ces solidarités interpersonnelles, je pense que c'est elle aussi qui est impliquée. Je le décris aussi à travers une autre séquence, comment une jeune fille, Olesya Jokowska, elle se retrouve entraînée dans la mobilisation, et pas parce qu'il y a tous ces cadres très politiques, parce qu'il y a l'Europe, parce qu'il y a les droits de l'homme. En fait, elle ne vient pas pour ça, elle vient d'abord par curiosité, parce qu'effectivement, le sens politique fait un tout petit peu écho à ça, ces expériences quotidiennes pratiques de l'injustice, mais ce n'est pas ça qui la pousse à agir. Donc c'est pour ça que parfois, je suis très méfiante quand certains de mes collègues essayent d'assigner un sens. Les gens sont mobilisés pour les droits de l'homme, pour la démocratie. Non, enfin, c'est des catégories beaucoup plus ordinaires qui les poussent à agir.
Ils ne sont pas nécessairement habités par tout ça au moment où ils vont sur place.
Tout à fait, et c'est ça que j'ai essayé de saisir. Et je pense que voilà, cette solidarité, les amitiés trouvées sur place, pouvaient aussi ensuite entraîner, obliger à retourner. Parce que la personne que je décris, Olesya, elle vit à 100 km. Elle est infirmière dans une zone rurale, mais elle abandonne son travail. Elle vient, elle retourne à chaque fois. Et je pense que c'est cette action de proche à proche, elle implique beaucoup. Je décris sur d'autres séquences et d'autres micro-groupes qui inscrivent cet engagement dans la durée aussi.
Yulia Choukane, il se passe quelque chose sur la place Maïdan qu'on pourrait qualifier presque de professionnalisation. Alors c'est un processus évidemment d'occupation, de lutte, de prendre les armes. Il y a plein de choses qui se passent. C'est-à-dire qu'il y a des tentes, il y a les micro-groupes dont vous parlez, mais il y a aussi des convois de voitures, enfin il y a une espèce d'incroyable solidarité qui s'organise et qui en même temps commence à prendre progressivement des aspects presque professionnels et dans la durée en tout cas.
Mais je pense qu'il y a déjà un certain savoir-faire protestataire, notamment en termes d'occupation de la place, puisqu'il faut retourner un tout petit peu dans l'histoire effectivement des protestations et des formes protestataires en Ukraine. Et il y a eu cette mobilisation en octobre 90 des étudiants, encore à l'époque soviétique, donc ils se mobilisent pour réclamer le départ d'un premier ministre. Ensuite, il y a eu cette grande mobilisation de 2004, la Révolution Orange. Et effectivement, on trouve déjà dans la mobilisation de 2013-2014 les éléments qu'on avait en 2004 avec les tentes dressées, donc une cité des tentes qui occupe la place, occupation des bâtiments publics, parce qu'effectivement, c'est une mobilisation en hiver, c'est une mobilisation qui dure 3 mois en 2013-2014. Donc il faut pouvoir une logistique. Et ensuite, on voit qu'il y avait une logistique aussi, les tentes dressées. Certains représentants de partis politiques me disaient qu'ils les avaient encore depuis 2004, par exemple. Les grandes tentes militaires qui étaient dressées. Donc il y a un savoir-faire qui existe, mais ensuite je pense qu'il se perfectionne aussi au quotidien. Et il tient beaucoup à la solidarité, effectivement. Je ne décris pas dans le livre, mais j'ai notamment beaucoup de discussions avec des hommes d'affaires qui amènent une cuisine de camp sur Maïdan et qui la font fonctionner avec leurs propres fonds, avec les dons, les dons d'autres personnes. Ouais. Et donc, voilà, ça fait un point où on peut venir manger. On peut manger une soupe et se réchauffer la nuit. Il y a une logistique. Donc, je pense qu'il y a dans cette logistique, il y a à la fois une horizontalité. Donc, ça tient à la solidarité et au don, mais il y a aussi une sorte de verticalité avec l'implication des partis politiques, de l'opposition dans la mobilisation, qui fournissent, eux, également, des fonds et qui font fonctionner, notamment une grande cuisine dans un des bâtiments occupés. Et il y a le troisième élément dans la professionnalisation, c'est le maniement de ces bâtons, de ces barres de fer, surtout à partir du moment où la violence fait éruption, où il y a les premiers morts sur Maïdan, effectivement, on voit cette dynamique de professionnalisation. Je décris les entraînements sur Maïdan, où des groupes d'autodéfense font des simulations comme s'ils avaient été attaqués par les policiers. Qu'est-ce qu'ils feraient à ce moment-là? Et peut-être la toute dernière séquence qu'on voit sur Maïdan et que j'ai pu saisir aussi et observer, c'est à partir du moment où la violence explose, c'est ce changement du rapport à la violence. Elle est totalement assumée.
Et à partir du moment où les autorités tirent sur la foule, alors à ce moment-là, les mobilisés peuvent y aller, entre
guillemets. Tout à fait. Ils peuvent y aller et ils y vont, et aussi de leur côté. Et je donne juste un exemple pour que ça soit plus clair pour les éditeurs. La fabrication, les ateliers cocktail Molotov. À des moments, au tout début de Maïdan, il n'y en avait pas au début de Maïdan, bien évidemment. En janvier, première violence, les trois premières victimes. On sait qu'il y a des cocktails, mais en tout cas, ils sont des ateliers cocktail Molotov, mais ils ne sont pas visibles. Ils ne sont pas en plein cœur de la place. Le 20 février, 48 personnes sont tuées dans la matinée du 20 février et les ateliers cocktail Molotov sont même en plein cœur de la place. Donc il y a un relâchement du rapport à la violence. La violence est totalement assumée. Elle est le seul moyen de résister face au pouvoir oppressif. Et ensuite, on retourne dans une phase de normalisation où de nouveau, il y a une volonté de mettre à distance la violence.
Mais effectivement, il y a un moment de basculement quand la police tire. On va écouter le début d'une chanson engagée d'un groupe ukrainien qui s'appelle Okean Elze. La chanson s'intitule « Lève-toi ». Yeah.
Чай з молоком, молися на теплий душ. Без тебе сьогодні сплять мільйон нервових сердець. Давай, не можна стояти навколо прямий ефір. Тобі так мало залишилось часу сказати їм. Часу сказати їм. В очі сказати їм. Вставай, мила моя, вставай, мила моя, вставай, мила моя, вставай. Давай, мила моя, давай, мила моя, давай, віщо вивай, чей! Всім покажи, де ставай не перший слід. Твоя земля чекає на захід або на схід. Заходу і на схід. Заходу і на схід. Вставай, мила моя, вставай. Мила моя, вставай. Мила моя, вставай.
La valeur de l'homme, chronique de la guerre en Ukraine, nous sommes en compagnie de Yulia Shukhan. Yulia Shukhan a un commentaire, une présentation de ce morceau protestataire.
Je voudrais d'abord dire qu'en fait, ce morceau nous montre à quel point la musique a été un moteur aussi, un mécanisme d'attraction sur Maïdan, puisque Maïdan baignait dans la musique, surtout dans cette phase pacifique encore de la mobilisation, phase joyeuse du mois de décembre, où il y a eu des concerts. Et là, on a écouté un extrait effectivement d'un concert de ce groupe Okean Elze et de son leader Svetoslav Karchuk. Kovalchuk, ils se sont produits sur scène à la mi-décembre. Et donc il y a eu aussi des veillées de nuit, les airs de discothèque de nuit que prenait Maïdan. Donc c'est un puissant mécanisme d'attraction que je décris. Et ensuite, cette séquence nous montre aussi l'engagement des musiciens, et notamment de Vakarchuk lui-même, qui est devenu une sorte de leader d'opinion, une autorité aussi morale en Ukraine. Sa trajectoire est très intéressante. Il s'est engagé déjà au moment de la Révolution Orange, donc en 2004, et est même entré en politique à la suite de cette séquence, mais en a été très rapidement échaudé. Il a renoncé à son mandat pour se tenir à distance de cette politique constitutionnelle. Mais dès qu'il y a une mobilisation des citoyens sur Maïdan, il s'est de nouveau réengagé, et donc en tant que musicien, en tant que personnalité publique, avec ses prises de parole, ses interventions, et en tant que simple citoyen, puisqu'il venait aussi à différents moments sur Maïdan. Et donc dans cette séquence, une chanson qui s'appelle « Lève-toi » et s'adresse à une femme, et à travers cette figure de la femme, on peut voir aussi la figure de l'Ukraine, en fait. « Ukraine, lève-toi, formule tes revendications, exprime-toi ». C'est un vieux titre, mais qu'il a repris, qui rentrait très bien, effectivement, dans le cadre de cette mobilisation. Et depuis... Svetoslav Vakarchuk, il continue à agir, en tout cas par ses interventions, à essayer d'influencer l'opinion. Il a fait toute une réflexion au printemps 2014 sur la manière de réunir l'Est et l'Est pour éviter effectivement que le conflit, à l'époque encore plutôt pacifique, bascule dans une guerre ouverte. Aujourd'hui, il est engagé dans la solidarité avec les lignes de front. Il va lui-même, effectivement, dans les différentes zones, se produire un concert. Donc, il continue à agir et il poursuit son engagement.
Yulia Choukan, il y a dans votre ouvrage un certain nombre de portraits, de destins. Vous en avez indiqué un ou deux. Il y en a un qui est très frappant, on ne pourra pas le restituer en entier, mais c'est sur cette famille et ses deux frères qui choisissent deux camps opposés et qui déchirent complètement la famille et qui au fond symbolise cette Ukraine divisée.
Pendant ces 2 ans et demi, j'ai entendu beaucoup d'histoires de ce type-là, effectivement, d'histoires de rupture. Comment le lien familial se rompt dans une situation de crise. Un lien d'abord avec Maïdan, où les gens me disaient, on n'arrive pas à expliquer à nos proches ce qui se passe. Ils ont une vision totalement déformée de ce qui se passe. La parole ne circule plus entre nous, on n'arrive plus à se parler. Et ensuite, bien évidemment, avec le conflit dans le Donbass, en fait, il y a... Ces ruptures se sont consolidées, et il se trouve que une situation de ce type-là a traversé la partie ukrainienne de ma famille aussi, puisque l'histoire des deux frères, c'est l'histoire de mes deux cousins. Et effectivement, je décris leur basculement, le point de rupture qui doit se situer bien avant, en amont du Maïdan, de par leur position idéologique, notamment sur toutes ces questions géopolitiques et d'alliance avec l'Europe ou la Russie. Et ensuite, je décris comment effectivement la mobilisation de 2013-2014 les a séparés. Et ensuite, c'est le conflit dans le Donbass qui a fait basculer l'un d'entre eux dans une entreprise terroriste, enfin en tout cas une tentative. Et l'autre, je le vois, je continue à l'observer, son engagement, son sentiment de... Enfin, ses pratiques de citoyenneté, puisque effectivement, Maïdan l'a influencé également. Donc il s'engage dans un certain nombre d'initiatives, et même tenté par l'entrée en politique éventuellement, mais à un niveau très local. Donc voilà, une trajectoire intéressante à suivre. Et cette histoire, je l'ai écrite aussi comme une histoire... Il n'y a pas de fin. Je pense que c'est une histoire sur laquelle je reviendrai encore, puisque je sais où se trouve mon grand cousin, où il vit en ce moment, il a réarrangé sa vie. Donc voilà, il me faudrait un jour aller à sa rencontre aussi pour écouter son histoire, pour entendre sa version des faits, puisque pour le moment, il y a qu'une partie des choses que nous, on connaît. L'histoire qui se raconte en famille, mais on n'a pas son point de vue.
À suivre alors. On va écouter le début d'un chant sépulcral composé en mémoire des manifestants tués sur la place Maïdan.
Залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину.
La valeur de l'homme, chronique de la guerre en Ukraine. Nous sommes en compagnie d'Yulia Choukhan. C'est très prenant, ce chant. Il dure beaucoup plus longtemps, on n'en passe que le début. Vous nous le resituez un tout petit peu.
En fait, par ce chant, qui est un air traditionnel d'Elemko, une petite ethnie dans les Carpates, à l'ouest de l'Ukraine, le Maïdan a rendu hommage à ces protestataires qui sont tombés sous les balles des policiers, donc dans la matinée du 20 février. Et c'est aussi par ce chant que l'Ukraine continue à rendre hommage aux militaires qui sont tombés au combat à l'est de l'Ukraine, donc dans ce conflit dans le Donbass, surtout ceux d'entre eux qui avaient eux-mêmes participé au Maïdan et qui sont engagés par la suite en tant que combattants bénévoles. C'est les paroles, en fait, effectivement, sont très poignantes aussi, puisque c'est un dialogue entre un fils qui part faire la guerre, qui part à la guerre, et sa mère, et donc le fils demande ce qui lui adviendrait s'il était mort à la guerre. La mère lui répond que d'autres lui donneront sépulture et qu'elle en sera extrêmement chagrinée. Et donc c'est une sorte de lamentation, ce chant, effectivement, et ce chant dans la matinée du 20 février 2014, dans la soirée, pardon, du 20 février 2014, elle a transformé Maïdan en une sorte de communauté émotionnelle. C'était une vraie séquence de catharsis, où les gens hurlaient, pleuraient, scandaient, disaient leur admiration vers ces personnes mortes et se libéraient par la même occasion, en fait, de toutes ces douleurs, de toutes ces rages, pour essayer d'aller de l'avant. Je connais beaucoup de personnes tous ceux qui avaient traversé aussi Maïdan, comme moi, enfin d'autres Ukrainiens qui me disent qu'ils ont toujours des larmes aux yeux, en fait, à l'écoute de ce chant. Donc je pense que le trauma est toujours là, malgré ce moment cathartique qu'ils avaient vécu à l'époque.
Ce qui transparaît dans votre ouvrage, c'est que cet engagement individuel, il est à la fois un combat pour une dignité individuelle, donc un sentiment d'exister, d'être un vrai citoyen dans un État corrompu, et en même temps une demande de démocratie en Ukraine. Et en même temps, alors c'est ce que je vous soumets, hein, mais une vraie demande de positionnement de l'Ukraine vers l'Europe et non pas vers la Russie. Il y a quand même une peur de la Russie. Donc c'est à la fois la démocratie en Ukraine et une inquiétude par rapport à ce géant russe historiquement toujours menaçant.
Bien sûr, il y a cette... Ce conflit, il a amené à se positionner, même ceux qui étaient neutres, par exemple, qui se tenaient à l'écart de toutes ces discussions sur le choix entre l'Europe et la Russie, puisque la Russie, dès le début, effectivement, donc, à travers les médias russes, par exemple, il y a une image extrêmement négative et déformée de Maïdan comme un rassemblement de personnes uniquement payées, comme des marginaux qui se réunissent sur la place. Et ensuite, l'interventionnisme russe à l'est de l'Ukraine, dans le Donbass, notamment de cette circulation des armes par la frontière, l'intervention des troupes russes en appui des troupes séparatistes donc de Donetsk et de Lugansk. Tout ceci a bien évidemment amené à se positionner, et je le vois surtout particulièrement à Kharkiv, qui est une ville à l'est de l'Ukraine, à 50 km de la frontière russe, où énormément de personnes mobilisées aujourd'hui, que ce soit dans les initiatives de soutien aux déplacés internes ou encore aux militaires, elles sont devenues anti-russes. Alors qu'elles ont des liens de famille, donc des liens de proches aussi en Russie, mais il y a une rupture de ces liens, il y a une grande incompréhension de par cet interventionnisme russe.
Un mot vraiment de conclusion sur la situation en Ukraine aujourd'hui.
On a un conflit armé de basse intensité qui se poursuit avec des phases plus intenses. Il y a régulièrement des morts, donc des militaires morts. Il y a bien sûr des populations civiles qui en souffrent énormément aussi, des deux côtés de ligne. Et énormément de citoyens engagés qui continuent leur action, certains dans la continuité du Maïdan, d'autres parce qu'ils se sont engagés, voilà, face au conflit, face à la guerre. Et un engagement très épuisant pour eux, mais en tout cas ils sont là et je continue à les suivre.
On les suivra avec vous. Cette émission s'achève. Je tiens à vous remercier chaleureusement, Yulia Choukhan, pour votre présence. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Génération Maïdan, vivre la crise ukrainienne, aux éditions de l'Aube en 2016, la publication en 2016. Merci à Arnaud à la technique. On se retrouve dans 15 jours. À bientôt.